29. Pete ne voit plus qu'une seule chance de s'en sortir vivant. Tant que le type aux lèvres rouges et au teint cireux ignore où sont les carnets de Rothstein, il n'appuiera pas sur la détente de son revolver, qui fait moins joujou de minute en minute. « Vous êtes l'associé de M. Hallyday, c'est ça ?» dit-il sans exactement regarder le cadavre. Cette vision est trop ignoble, mais en donnant un coup de menton dans cette direction. « Vous êtes de mèche avec lui ?» Lèvres rouges lâche un rire bref, puis fait une chose choquante pour Peter, qui pensait pourtant que plus rien ne pouvait le choquer. Il crache sur le corps. « Il a jamais été mon associé, même s'il aurait pu l'être à une époque, quand je lui ai donné sa chance. T'étais pas encore une étincelle dans l'œil de ton père, Peter. Je dois dire que je trouve ta tentative de diversion admirable, mais je te demanderai de t'en tenir à notre sujet. Où sont les carnets ? Planqués dans ta maison ? Qui, soit dit en passant, était ma maison. C'est-il pas une coïncidence intéressante, ça ? Encore un choc.
Votre...
Encore de l'histoire ancienne. Peu importe. C'est là-bas qu'ils sont ?
Non. Ils y ont été un moment, mais je les ai déménagés.
Et je devrais te croire ? Non, je te crois pas.
À cause de lui.
Pete désigne à nouveau le cadavre du menton.
J'ai essayé de lui en vendre quelques-uns, et il a menacé de me dénoncer à la police. Il fallait que je les déménage.
Lèvres rouges réfléchit à ça, puis hoche la tête. D'accord, je peux comprendre ça. Ça colle avec ce qu'il m'a raconté. Alors, tu les as mis où ? Crache le morceau, Peter. Déballe tout. On se sentira mieux après tous les deux. Surtout toi. Si une fois fait, c'était fini, il serait bon que ça soit vite fait. Macbeth, acte 1. Pete ne déballe rien. Tout déballer, c'est mourir. Voici l'homme qui le premier a volé les carnets. Pete le sait maintenant. Voler les carnets et assassiné John Rothstein il y a plus de 30 ans. Et maintenant, il a assassiné M. Hallyday. Aura-t-il des scrupules à ajouter Pete Sauber à sa liste ? Lèvres rouges n'a aucun mal à lire dans ses pensées. J'ai pas besoin de te tuer, tu sais. Pas tout de suite, du moins. Je peux te coller une balle dans la jambe. Si ça te délie pas la langue, je peux t'en coller une dans les parties. Sans ces bijoux de famille, un jeune type comme toi a plus grand-chose à espérer de la vie, si ?
Poussé dans ses derniers retranchements, Pete n'a plus rien sur quoi se rabattre que l'indignation brûlante, désespérée, que seuls les adolescents savent éprouver.
« Vous l'avez tué ! Vous avez tué John Rothstein !»
Des larmes lui montent aux yeux. Elles roulent sur ses joues en ruisselets tièdes.
« Le meilleur écrivain du XXe siècle, et vous avez cambriolé sa maison et vous l'avez tué ! Pour de l'argent. Rien que pour de l'argent.
Non, pas pour l'argent, riposte Lèvres rouges. Il a trahi.
Il fait un pas en avant, et le canon de son arme pique légèrement du nez.
Il a envoyé Jimmy Gold en enfer, et il a appelé ça la publicité. Et puis d'ailleurs, quitté pour me donner des leçons. Toi-même t'as cherché à vendre les carnets. Moi je veux pas les vendre. J'ai peut-être voulu par le passé, quand j'étais jeune et bête. Mais c'est fini ça. Je veux les lire. Ils sont à moi. Je veux caresser l'encre et sentir les mots qu'il a écrits de sa main. C'est de penser à ce moment qui m'a empêché de devenir fou pendant 36 ans.
Il fait un autre pas en avant.
Oui, et parlons-en de l'argent. L'argent dans la malle, tu l'as pris aussi ? Bien sûr que tu l'as pris. C'est toi le voleur, pas moi. Toi !
À ce moment-là, Pete est trop furieux pour penser à s'enfuir. Parce que cette dernière accusation, si injuste soit-elle, est on ne peut plus vraie. Il se saisit soudain d'une des carafes d'alcool et la lance de toutes ses forces sur son bourreau.
Lèvres rouges ne s'attend pas à ça. Il se baisse en pivotant légèrement sur la droite et la bouteille le frappe à l'épaule. Le bouchon de verre saute quand elle heurte le tapis. L'odeur âpre et piquante du whisky se mêle à celle du vieux sang. Leur festin interrompu, les mouches bourdonnent en une nuée agitée.
Pete s'empare d'une autre carafe et se précipite sur Lèvres rouges en la brandissant telle une matraque, tout revolver oublié. Il trébuche sur les jambes écartées de Hallyday, tombe sur un genou et quand Lèvres rouges fait feu, le bruit, dans la pièce close, résonne comme un claquement de main mate.
La balle frôle sa tête, passant assez près pour balayer ses cheveux. Pete l'entend siffler. Zzz. Il lance la deuxième carafe, et celle-ci frappe Lèvres Rouges juste en dessous de la bouche, et il se met à saigner. Dans un cri, il titube en arrière, heurte le mur.
Les deux dernières carafes sont derrière lui maintenant. Et Pete n'a plus le temps de se retourner pour s'en saisir.
Il pousse sur ses jambes afin de se relever et attrape la hachette sur le bureau, non par son manche gainé de caoutchouc, mais par le fer. Il sent la morsure du fil dans sa paume. Mais c'est une douleur lointaine, ressentie par quelqu'un qui vit dans un autre pays. Lèvres Rouges n'a pas lâché le revolver et il le retourne vers Pete pour viser et tirer. Pete n'a pas exactement la possibilité de réfléchir, mais une partie profonde de son esprit, qui n'a peut-être jamais été sollicité jusqu'à ce jour, comprend que s'il était plus près, il pourrait saisir Lèvres Rouges à bras le corps et lui arracher son arme. Facilement. Il est plus jeune, plus fort. Mais il y a le bureau entre eux. Alors il lance plutôt la hachette. Elle tournoie en direction de Lèvres Rouges, cul par-dessus tête, tel un tomahawk. Lèvres Rouges hurle et rentre la tête dans les épaules afin de lui échapper, levant la main qui tient le revolver afin de protéger son visage. Le côté contondant du fer heurte son avant-bras. Le revolver s'envole, frappe l'un des rayonnages et tombe sur le sol dans un claquement. Un autre claquement se fait entendre lorsque la balle part. Pete ignore où est partie cette deuxième balle, mais elle n'est pas dans sa peau. Et pour lui, c'est tout ce qui compte. Lèvres Rouges rampe vers le revolver, ses fins cheveux blancs à travers des yeux, du sang goutte de son menton. Il est d'une rapidité surnaturelle, un peu comme un lézard. Pete calcule, toujours sans réfléchir, et comprend que s'il essaie de prendre Lèvres Rouges de vitesse pour récupérer le revolver, il perdra. Il s'en faudra d'un cheveu, mais il perdra. Il a peut-être une chance de saisir le bras de l'homme avant que celui-ci ne tourne le revolver vers lui et tire, mais elle est faible. Il préfère bondir vers la porte.
« Reviens, petit merdeux !» braille Lèvres Rouges. « On n'a pas terminé !»
Une pensée cohérente fait brièvement surface. « Oh que si !» se dit Pete. Il ouvre la porte à la volée et franchit le seuil en courbant le dos. Il claque la porte derrière lui d'un violent geste de la main gauche et pique un sprint vers l'entrée du magasin en direction de Lacemaker Lane, des autres gens et de leur vie bénie. Il entend un autre coup de feu, étouffé, et il voûte un peu plus les épaules. Mais il ne ressent ni impact, ni douleur. Il tire sur la poignée de la porte, elle résiste. Il jette un coup d'œil affolé par-dessus son épaule et voit Lèvres Rouges sortir en trébuchant du bureau de Hallyday, le menton festonné d'une barbiche de sang. Il a le revolver à la main et il tente de viser. Pete s'en prend au verrou avec des doigts qui ne sentent rien, parvient à s'en saisir et tourne. L'instant d'après, il est sur le trottoir ensoleillé. Personne ne le regarde. Il n'y a personne dans les environs. En cette chaude après-midi de semaine, la zone piétonne de Lacemaker Lane est quasi déserte. Pete court aveuglément, sans du tout savoir où il va.